Bonjour à tous. D'abord, un grand merci à Marc Fontecave pour cette invitation à faire ce séminaire ici. Je suis très, très flatté, très honoré. Et en même temps, je voudrais aussi te remercier pour l'introduction qui a été faite s'agissant de la synthèse de carbonate, de polycarbonate, qui a bien posé la problématique. Et donc, l'objet de ma présentation est de vous dire un petit peu ce que l'on fait actuellement dans mon laboratoire à Bordeaux, qui est donc un laboratoire totalement dédié à la chimie des polymères, avec aujourd'hui juste un premier slide avant de vous présenter, je dirais, le sommaire de ce séminaire. Donc un premier slide qui vous dit un petit peu qui on est dans cette unité de recherche, donc une unité qui est commune au CNRS et à l'Institut national, à l'École nationale supérieure de chimie et de physique et de biologie de Bordeaux et à l'université, comme c'est mentionné. Donc vous trouverez toutes les informations sur notre site. Donc en clair, on a quatre équipes de recherche, une qui s'intéresse vraiment à l'aspect de catalyse, de polymérisation, d'ingénierie macromoléculaire. Deux autres équipes qui s'intéressent plutôt à des aspects finalisés, puisqu'on sait qu'on va trouver les polymères dans de nombreuses applications, et on essaie de viser des applications à plutôt haute valeur ajoutée dans le domaine des sciences du vivant, principe délivrance de principes actifs par exemple, ou encore dans le domaine de l'électronique ou de la conversion justement solaire en électricité via des polymères conducteurs. C'est aussi un troisième axe. Et l'axe qui me concerne plus particulièrement et qui va faire un peu l'objet de cette présentation aujourd'hui, mais ça concerne la valorisation de la biomasse, donc ce qu'on va appeler les biopolymères, bien sûr les celluloses, les hémicelluloses, ça a été dit, mais aussi la lignine, qui est un très grand pourvoyeur de polyphénol, très intéressant aujourd'hui dans le domaine des polymères biosourcés. Et on va parler un petit peu de polymères biosourcés, et si vous voulez, dans mon exposé, dans ma présentation, je vais inclure le CO2 dans ce quatrième axe. Alors, bon, on en avait un petit peu discuté, je trouvais qu'il pouvait être intéressant, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de faire un petit peu un point sur les polymères, où on en est aujourd'hui dans le domaine de la chimie des polymères, de la science des polymères. Donc je vous ferai une petite introduction assez rapide sur les polymères synthétiques et les biosourcés, et après quoi on rentrera dans le vif du sujet, à savoir un des projets ANR qui nous a occupés avec des collègues pendant quelques années, un projet qui s'appelle le projet Polygreen. Je ne parlerai pas de polycarbonate, même si le CO2, tout de suite on pense à carbonate et polycarbonate, mais je vous présenterai une nouvelle voie d'accès à des polyuréthanes biosourcés où le CO2 a toute sa place. Et donc là, on verra un petit peu comment on peut accéder à ces polyuréthanes par la synthèse de carbonate en C5 avec des études moléculaires, un petit peu en essayant d'approfondir un peu les mécanismes de synthèse de ces carbonates. Puis après, on ira vers, si j'ai le temps, une chimie de carbonate en C6 qui aujourd'hui est pour nous un des enjeux importants. Alors, une brève introduction sur les polymères. Bon, en fait, les polymères, c'est 300 millions de tonnes par an aujourd'hui. Voilà, c'est ce que l'on consomme. C'est ce que l'on utilise dans le monde, avec une croissance qui est à peu près de 4% par an, sans une croissance continue. On consomme toujours plus, on produit toujours plus. Alors, est-ce qu'il y aura une limite à 5 jours ? Sûrement, il faudrait. Mais l'objet de cette présentation, c'est pour dire que de toute façon, tout est d'origine du pétrole, comme vous le savez, avec ce fameux craquage de cette fraction, le nafta, à partir duquel on va récupérer toute une série de molécules plateformes, bien évidemment l'éthylène, le propylène ou des diènes, des dérivés aromatiques. Et un des enjeux qui nous préoccupe, c'est que, à savoir que, bon, je ne suis pas expert du domaine, mais disons, a-t-on passé le peak oil ? Oui, sûrement. Certes, la problématique gaz de schiste est en train un peu de reposer le problème un peu différemment. Alors peut-être que les gaz de schiste vont déplacer la nécessité d'utiliser la biomasse pour faire de nouveaux matériaux dans le temps, mais sûrement que dans l'échelle de l'humanité, ce sera peut-être un petit phénomène par rapport à, je dirais, à cette problématique. Donc de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on puise dans ces ressources qui sont fossiles et qui sont finies. On a en même temps des prix qui peuvent aller crescendo, le prix du baril du pétrole étant, je dirais, un témoin de cette évolution des prix. Donc, quelque part, la réflexion globale que l'on a est de se dire qu'il faut quand même réfléchir à une valorisation, comment peut-on utiliser cette biomasse qui est disponible, que nous avons là à disposition pour faire des polymères d'intérêt. Donc voilà, c'est un peu, dans cette présentation, vous avez ici la production de polymères communément appelés matières plastiques. J'aime pas trop le terme parce que la plasticité est une propriété et l'acier peut être plastique à très haute température. Donc de matériaux polymères avec une production, vous voyez, 2007, on était à 260 millions de tonnes, 300 millions de tonnes aujourd'hui, etc. Et l'Europe à peu près, qui pèse à peu près entre 50 et 60 millions de tonnes. Par rapport à ces 300 millions de tonnes. L'application principale des polymères aujourd'hui, elle n'est absolument pas à très haute valeur ajoutée, malheureusement, si j'ose dire, c'est tout le domaine de l'emballage qui est à lui seul, donc ça va des sachets, des poches jusqu'aux bouteilles plastiques, mais on verra que c'est important et on y reviendra peut-être dans la discussion après, puisque ça correspond à peu près à 40% de l'ensemble de ces volumes. Donc une croissance de 4% par an, je l'ai dit, des marchés qui sont continuellement en croissance et bien évidemment on continue à puiser allègrement dans ces ressources fossiles. Donc si vous voulez, par rapport à ça, il y a aussi le problème du réchauffement climatique, de l'émission de CO2 qui fait bien l'objet, je dirais, de tout ce cours et ces séminaires qui sont donc absolument, il faut capter et puiser ce CO2. Donc forcément, donc des émissions de gaz carbonique qui sont très élevées, comme vous le savez, avec un vrai questionnement sur le dérèglement climatique. Je ne suis pas du tout expert du climat et je ne m'engagerai absolument pas dans ce débat-là. Par contre, ce qui est à peu près clair, c'est qu'il faut trouver des solutions pour le capter, pour le stocker, et ou pour le valoriser. Et c'est un peu de ça dont je voudrais parler avec vous là maintenant, à savoir comment on peut le valoriser, ce CO2, comme solvant, comme réactif. Il y a plein d'applications potentielles dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, dans la pharmacie, et bien évidemment dans la synthèse et dans la mise en forme de polymères. Donc, ça a déjà été dit, donc je remercie encore Marc Fonteca d'avoir fait cette présentation. Effectivement, peut-être que mes chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais grosso modo, on est effectivement aux 150 millions de tonnes de la valorisation du CO2 comme source de carbone fossile, comme une alternative aux énergies fossiles. C'est essentiellement effectivement l'urée et un peu les carbonates et les polycarbonates qui sont utilisés, enfin qui utilisent le CO2 comme source de matière première. Alors, ça va faire la transition avec la fin du cours qui a été faite tout à l'heure, et donc j'ai dit que je voulais englober, si vous voulez, l'utilisation du CO2 et de ressources renouvelables. Pour l'utilisation et pour la synthèse de polymères, biosourcés, donc où on veut absolument utiliser un carbone qui ne soit pas d'origine fossile et qui fait appel donc à ce qu'on va appeler le concept de la bioraffinerie. Donc effectivement, si on regarde notre source de carbone aujourd'hui, si elle est d'origine pétrolière, cette source de carbone a mis des millions d'années à se former. Et donc, on la consomme entre une minute et 50 ans, je dirais. Voilà, donc, alors qu'on a à côté de nous une biomasse qui, elle, peut se régénérer de façon annuelle, par des plantes annuelles, ou alors 50 ans, c'est à peu près l'âge moyen d'un pin maritime en Aquitaine, par exemple, après quoi on va l'utiliser pour le couper et reboiser, etc. Donc, grosso modo, la biomasse, entre entre un an et 50 ans, c'est le cycle le turnover qu'on peut avoir en utilisant du carbone, donc beaucoup plus compatible avec, je dirais, l'échelle humaine. Donc finalement, à cette bioraffinerie que l'on va opposer à la pétro-raffinerie, on va rechercher à valoriser cette biomasse, donc avec les grands biopolymères type lignine, cellulose, amidon et les huiles végétales, on en reparlera, qui sont notre stock disponible pour à la fois produire de l'énergie, nourrir la planète et bien sûr tout ce qui est alimentation animale, on n'en parle pas mais c'est très important et c'est un poids non négligeable dans toute cette valorisation de la biomasse. Et par des procédés qui ont déjà été présentés d'ailleurs tout à l'heure, que ce soit des procédés notamment de fermentation en particulier, on va aller rechercher des molécules plateformes. Et ces molécules plateformes, c'est essentiellement les sucres, le glucose en particulier, aujourd'hui, qui est utilisé, l'autre grande plateforme étant l'éthanol, pour aller fabriquer des molécules, des plateformes qu'on va appeler des bioplateformes, un peu par abus de langage, et pour produire des molécules en C2, C3, C4, etc., ou des dérivés aromatiques. Ça, c'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins mûr, beaucoup moins mature actuellement, mais très important et en pleine effervescence actuellement, la recherche d'aromatiques biosourcées. Et donc, on va travailler sur l'accès à ces molécules plateformes pour produire, bien évidemment, des polymères que l'on va considérer comme biosourcés. Et parmi ces polymères biosourcés, on va distinguer deux grandes catégories. Ces deux grandes catégories, en fin de compte, ce seront des systèmes qui pourront être des polymères durables ou semi-durables, et on va retrouver exactement la même, je dirais, problématique que les polymères pétrosourcés classiques, c'est-à-dire qu'ils seront recyclables à leur fin de vie, mais pas nécessairement biodégradables, donc il ne faut absolument pas confondre biosourcés et biodégradables. Et parmi ces polymères biosourcés que l'on peut avoir, par exemple, ben, le biopolyéthylène ou le biopolytéréphtalate d'éthylène, donc toutes les bouteilles d'emballage, ou des polyamides 11 ou des polyamides 6-10, mais ils seront certes biosourcés, mais ils auront absolument les mêmes caractéristiques, propriétés et inconvénients, si j'ose dire, que les polymères synthétiques issus de la pétrochimie, à part qu'on n'aura pas puisé dans un carbone fossile et qu'on aura puisé dans une biomasse. Avec tous les problèmes de compétition qui ont été tout à fait à juste titre évoqués tout à l'heure, de compétition par rapport aux terres que l'on va exploiter pour produire ces matériaux. Et bien évidemment, il y avait un slogan il y a quelques années qui disait c'était manger ou rouler, quelque part. On revient donc à la problématique de faire attention quelle est la ressource que l'on va utiliser et quelles sont les terres que l'on va, je dirais, prendre pour fabriquer ces matériaux. Donc à côté de ça, il y a un autre enjeu qui se rajoute à ce qui est polymère biosourcé, c'est d'avoir des matériaux qui vont être biodégradables ou biocompostables à leur fin de vie et essayer de mettre au point des matériaux un peu nouveaux, comme par exemple les polyacides lactiques, donc le PLA, donc l'acide lactique qui est un dérivé de la fermentation aussi, que ne produit pas la pétrochimie. Donc ça, c'est un matériau qui est nouveau, c'est un polyester, ou des mélanges à partir de ce PLA, ou des dérivés d'amidon, ou de cellulose, ou des polyhydroxyalkanoates, qui sont aussi des nouveaux polymères biosourcés et biodégradables en émergence. Et le total à peu près aujourd'hui des polymères biosourcés par rapport aux 300 millions de tonnes, on est entre 1,5 et 2 millions de tonnes de polymères biosourcés actuellement, mais c'est un domaine qui est en pleine croissance puisqu'on vise à peu près, on va atteindre entre 5 et 6 millions de tonnes de polymères biosourcés dans les 2-3 ans qui arrivent, et notamment la France est assez en avant dans ce domaine-là. Donc vous avez, c'est mon dernier transparent de présentation qui vous montre un petit peu ici nos ressources, cellulose, amidon, glucose, sucrose ou les huiles végétales, pour faire ces molécules plateformes et à partir de ces molécules plateformes, soit refaire des polymères qui miment ce que nous a donné la pétrochimie ou des polymères tout à fait nouveaux, comme je viens de vous en illustrer mon propos avec le polyacide lactique. Le projet PolyGreen, finalement, il avait pour objectif de combiner à la fois, c'est un partenariat entre l'Institut des corps gras, situé aussi dans la région aquitaine à Pessac, qui est un centre technique industriel en oléochimie. Donc tout ce qui a été dit sur les huiles tout à l'heure est un domaine que je regarde beaucoup actuellement et qui m'intéresse beaucoup. En partenariat donc forcément avec donc mon laboratoire et des collègues aussi bordelais de l'Institut des sciences moléculaires qui sont des collègues spécialisés en chimie organique et en catalyse en particulier et en spectroscopie. Donc l'enjeu et la problématique de ce sujet, c'est la chimie de polyuréthane. Vous verrez dans un instant, les polyuréthanes, c'est un gros marché, c'est beaucoup d'applications, de spécialités, ce sont des matériaux qui sont très utilisés pour... On les synthétise, comme vous le savez sûrement, par une chimie, je dirais, très, très au point aujourd'hui, par la réaction de diol ou de polyol avec des isocyanates. Et forcément, ces intermédiaires isocyanates dérivés du phosgène sont des dérivés qui sont toxiques. Le phosgène, bien sûr, le gaz lui-même étant très, très, très toxique, mortel. Et les isocyanates sont des composés qui ne sont pas très agréables à manipuler. Donc une alternative à cette chimie des polyuréthanes que l'on s'est proposé d'étudier en partant de dérivés biosourcés, donc de bis-époxy de biosourcés, de dérivés de l'acide oléique en particulier, et de faire réagir, d'étudier la réactivité de ces oléagineux époxydés avec le CO2 pour en faire des dérivés bicarbonates, pluricarbonates, et bien évidemment d'accéder après à cette chimie des polyuréthanes en faisant réagir des carbonates avec des amines. Bon, voilà un petit slide, je dirais, qui montre un peu les applications. Par rapport à mes 300 millions de tonnes de matière plastique au total, les polyuréthanes, c'est un gros marché, beaucoup d'applications, beaucoup de mousse en particulier, mais aussi des élastomères, des adhésifs, des colles, des vernis, des revêtements, enfin, énormément d'applications. Il y en a sûrement sur ce parquet, dans le plafond, enfin, il y en a à peu près partout. Alors, un petit point quand même avant de rentrer dans le sujet sur les huiles végétales. Bon, ce sont ces triglycérides que l'on va utiliser. En fait, on n'a pas travaillé sur les triglycérides. On a voulu travailler sur des dérivés. Pourquoi on n'a pas travaillé sur les triglycérides? Parce que ici, j'ai fait une image, je montre une image à peu près très simpliste, si j'ose dire. Dans la mesure où, dans la structure des triglycérides, vous n'avez jamais trois acides gras greffés sur une molécule de glycérol de même structure chimique. Donc, on n'a pas une très très bonne connaissance de la structure intime de ces triglycérides. Donc, il y a de multiples combinaisons, c'est ce que ça veut dire là, et donc avec des structures variables de ces triglycérides. Donc, on a préféré travailler sur des esters méthyliques de ces acides gras correspondants, et en particulier sur l'acide oléique qui est en C18-1, donc 18 carbone et 1 pour une seule insaturation. Donc là, c'est très au point, notamment en France, sur l'obtention à partir de tournesol d'acide oléique, de tournesol riche en acide oléique, avec des triglycérides et des taux d'acide en C18-1 relativement élevés. Et après, par des procédés de distillation, d'extraction puis distillation, on peut travailler sur des fractions en C18-1 à hauteur de 95-96% et faire une chimie que l'on peut un peu maîtriser. Donc, forcément, à partir de ces acides gras, la première chose que l'on a faite est de regarder quand même une chimie de polyol classique pour faire des polyuréthanes par la voie classique. Donc, on a fait toute une librairie de polyol base oléagineuse. J'en ai illustré ici quelques exemples en faisant varier les structures. Je ne vais pas du tout m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas l'objet de ce séminaire. Donc, on a fait toute une série de diols bien définis et proposés par des réactions assez classiques d'époxydation, d'ozonolyse ou de réaction de thiolène, des polyols biosourcés pour faire des polyuréthanes semi-biosourcés dans la mesure où les isocyanates, eux, ne le sont pas. Alors, il faut quand même savoir, je pensais que c'était important de le dire, parce qu'on ne va pas régler complètement le problème des polyuréthanes par la voie carbonate, enfin, pas tout de suite, que cette taxe polyol biosourcée pour une chimie de polyuréthane plus vert, si j'ose dire, est quand même quelque chose qui est très développé actuellement à l'échelle industrielle. Et donc, forcément, nous, on a essayé d'y contribuer à notre niveau, bien évidemment. Revenons à la problématique des polyuréthanes. Donc, sur ce graphe-là, vous avez ici, finalement, la zone dangereuse, si j'ose dire, où alcool, isocyanate, c'est la voie classique, c'est ce qui est utilisé dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, il y en a quelques-unes. On peut faire de la polymérisation par ouverture de cycle de ces carbamates cycliques. On peut faire de la condensation entre des diamines et des carbonates. On peut faire aussi de la transuréthanisation entre des carbamates et des alcools, mais ce sont des réactions qu'il faut catalyser ou il faut quand même pas mal chauffer. Ce ne sont pas des réactions simples. Et forcément, c'est la voie que l'on a privilégiée, c'est la voie carbonate-amine, qui est peut-être la voie la plus intéressante dans la mesure où on se prive, on évite d'utiliser les isocyanates et bien sûr, a priori, pas d'utilisation du phosgène, ce qui est un enjeu important. Donc, rentrons un peu dans le vif du sujet. À partir de ces dérivés, je dirais, forcément, ça a été dit tout à l'heure, donc de base de type époxy, carbonatation, réaction de l'époxy avec le CO2 pour faire des carbonates. Alors ça peut être aussi très intéressant, j'ai parlé de diol tout à l'heure, de polyol, à partir de ces diols, de faire des carbonates. Donc aujourd'hui ce sont des dérivés type phosgène ou carbonate d'éthylène ou diméthylcarbonate qui sont utilisés pour faire ce couplage, mais ça pourrait être très intéressant et étudier de regarder via le CO2 bien évidemment. Mais la voie qu'on a choisie, que je vais vous présenter, c'est donc de regarder par rapport à ces substrats oléagineux, qu'ils soient type dimère d'acide gras ou éventuellement de type triglycéride, même si je ne parlerai pas plus tard de triglycéride, de la carbonatation d'huile pour faire ces fameux polyuréthanes. Avant de, quand même, pour être très honnête, et pour être plutôt précis, parce qu'honnête, je pense qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, mais pour être très précis, lorsque on fait réagir des alcools avec des isocyanates pour faire des polyuréthanes, voilà la structure chimique d'un polyuréthane. Il y a autant de polyuréthane que de structures R' et R que vous mettez. Donc il y a une infinité de polyuréthane. Donc on parle des polyuréthanes au pluriel dans la mesure où, forcément, selon ce que vous mettez entre R et R', ben, vous avez toute une panoplie de matériaux. Lorsqu'on va faire réagir des biscarbonates aussi, en faisant varier la nature ici de l'espaceur entre les fonctions carbonates et les fonctions amines, on ne va pas tout à fait faire des polyuréthanes classiques, on va faire des polyhydroxyuréthanes, parce qu'à chaque fois qu'on va faire réagir une amine avec un carbonate cyclique, ici par exemple à 5, on va générer, selon la façon dont le carbonate va s'ouvrir, on va générer des alcools secondaires ou des alcools primaires au cours de la réaction. Donc ce sont des matériaux qui sont fondamentalement différents que les polyuréthanes. On peut imaginer que la prise en eau sera différente, on peut imaginer que la cohésion du matériau sera différente et donc que les applications seront différentes. Donc déjà, je suis en train de vous dire que faire croire que par la voie carbonate-amine, on va remplacer les PU classiques que l'on fait par la voie alcool-isocyanate, ce serait un petit peu osé de ma part de le faire. Donc on va parler de carbonate à 5 chaînons. Je vous montrerai des aspects de catalyse, de réactivité de ces carbonates, et puis si j'ai le temps, ça dépendra, on abordera après un petit peu les carbonates à 6 chaînons. Bon, ça c'est la graine de ricin qui est au milieu, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la base ricin. Je rappelle, elle n'est pas comestible, donc ça va, ouf, on n'est pas en compétition avec la chaîne alimentaire. Ces carbonates, on va d'abord regarder un petit peu, on a d'abord regardé quelques réactions modèles et quelques catalyseurs sur cette réaction carbonate-amine. Donc en fait, ça a été dit et très bien dit tout à l'heure, donc je ne vais pas être trop long. La réaction entre ce CO2 et ces époxydes, oxyranes, donc pour faire ces carbonates, on a essayé de regarder une approche par organocatalyse. Parce que bon, alors c'est des choses qui sont très au point et forcément il y a une influence de la réactivité de cet époxyde par rapport à la nature du substituant sur l'époxyde. Donc il y a déjà il y a beaucoup de travaux et les revues qui ont été mentionnées tout à l'heure sont absolument importantes à connaître. Donc forcément, on va regarder des temps de réaction, on va regarder des aspects de rendement, de sélectivité, en général dans des conditions qui peuvent être assez douces malgré tout, même si parfois on va être obligé de travailler à des températures relativement élevées. Mais en fin de compte, l'enjeu de notre problématique s'adressant à des polymères pour l'obtention de polymères biosourcés sur une biomasse, je dirais, c'est d'utiliser en même temps la catalyse et les procédés qui soient les plus verts possibles. Il ne s'agit pas de faire une chimie de polyuréthane de polymères biosourcés qui ne prennent pas en compte, je dirais, et d'y mettre une catalyse qui soit, je dirais, trop violente ou autre. Donc c'est vraiment optimiser par tous les moyens possibles cette chimie. Alors les catalyseurs, ils ont beaucoup évolué au cours du temps, ça a été montré tout à l'heure. Des complexes métalliques, des sels d'halogénure, des oxydes métalliques, et je voudrais un peu parler de liquide ionique. Et ce qui est très important de voir, c'est que souvent, on a une très forte influence des conditions de température, assez élevées malgré tout, ce qui n'est pas forcément toujours facile, et de pression aussi. Donc on verra que selon la pression dans laquelle on va se travailler, on peut être en milieu monophasique ou en milieu biphasique, ce qui va un peu compliquer notre affaire. Donc le principe général de ces catalyseurs, c'est qu'en général, ils fonctionnent comme des couples acide-base de Lewis. L'anion, souvent un halogénure, va jouer le rôle de nucléophile pour ouvrir l'époxyde. Mais c'est ce que j'avais un peu dit tout à l'heure, souvent cette catalyse n'est pas très verte, très propre. Et puis on a souvent besoin de travailler à des températures, à des pressions élevées, d'où notre objectif d'essayer d'optimiser. Donc avant de parler de la carbonatation des huiles végétales pour faire des polyuréthanes, on s'est attaqué à la réactivité de monoépoxyde modèle, donc avec les collègues, notamment l'oxyde propylène, l'époxy cyclohexane et l'époxystyrène. Et parmi les huiles végétales époxydées, donc juste je vous le montre une fois, et donc on a beaucoup travaillé sur des esters d'acide gras qui peuvent être des dérivés de l'acide oléique, de l'acide linoléique, donc avec deux insaturations qui sont époxydées, avec bien sûr ça c'est le dérivé du ricin qui est naturellement hydroxylé. Et puis on a designé toute une série de dimères, parce que pour faire des polymères et faire des liens entre unités monomères, il faut deux mains, donc il faut toujours des monomères bifonctionnels. Donc on est toujours à la recherche pour faire des polymères linéaires de monomères bifonctionnels, donc des bis-époxydes, avec des époxydes qui sont internes à la chaîne grasse ou des époxydes qui sont terminaux. Et on verra que ça va avoir une influence assez importante sur la réactivité de ces monomères. Bref, et puis aussi un petit peu sur des triglycérides qui sont quand même importants et des produits naturels. Donc, avant d'étudier la réactivité de ces époxydes avec le CO2, on a pensé qu'il était important, et j'en suis convaincu, de connaître un peu la thermodynamique de ces mélanges. Donc là, je vais parler un petit peu de CO2, mais de CO2 supercritique, parce que si je fais varier la pression et la température du CO2, comme vous le savez, mais il y a un point critique qui est autour de 738 mégapascales et à 31 degrés. Au-delà de ce point ici, de ce point critique, je n'ai plus un gaz, je n'ai plus un liquide, j'ai le CO2 dans une phase supercritique. Et donc, c'est très intéressant, cette notion de fluide supercritique, dans la mesure où, dans ce domaine-là, le CO2 a une viscosité qui est proche de celle d'un gaz, donc ça c'est assez intéressant, mais une densité qui est assez proche de celle d'un liquide. Et donc on va pouvoir, en tout cas, essayer de moduler les propriétés de ce CO2 avec la température et avec la pression. Donc pour ça, on a besoin d'un équipement un petit peu particulier, et c'est pour ça que je suis d'ailleurs allé chercher les collègues spectroscopistes de l'ISM, Dr Thierry Tassin, pour donner son nom, qui est un spectroscopiste et qui a mis au point aussi des équipements dédiés à ça. C'est-à-dire que donc on a une cellule, c'est vraiment du fait maison, une cellule, je dirais, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir rentrer le CO2, les époxydes. Et le gros intérêt de cette technique est de pouvoir faire du suivi in situ, par spectroscopie, par infrarouge, ramant, et d'observer exactement tout ce qui se fait à l'intérieur. Donc on va pouvoir regarder, forcément, comme on va avoir des milieux qui vont être biphasiques, vous aurez une phase qui va être riche en CO2 et une phase qui sera riche en époxyde, notamment avec les acides gras, qui seront très peu solubles dans le CO2. Donc on va travailler dans des milieux biphasiques, et là vous tournez, on tilte la cellule pour regarder soit dans la phase CO2, soit regarder dans la phase huile. Alors, donc on fait du suivi in situ par infrarouge, et c'est par suivi in situ infrarouge que l'on va suivre exactement les réactions qui vont se passer. Donc on peut suivre très facilement, dans la phase riche en CO2, les bandes d'absorption qui sont propres à celles de vibration, pardon, qui sont propres à celles du CO2. On peut suivre ça très bien aussi, là, avec l'exemple de l'oxystyrène, de l'époxystyrène, pardon, on peut absolument pouvoir pousser les bandes, relatives à cet époxyde en augmentant la pression. Et donc on voit que plus on va augmenter la pression et plus on va solubiliser dans cette phase riche en CO2 notre époxy modèle, ici l'oxystyrène. Donc même chose pour la phase qui va être riche en époxyde, où en faisant à nouveau varier la pression, on va pouvoir aussi suivre l'évolution des bandes de vibration relatives à notre monomère et également au CO2, dont on voit que progressivement, avec la pression, on va faire rentrer du CO2 dans la phase riche en époxy. Bien sûr, l'idée étant d'en mettre le maximum pour après faciliter la réaction époxy-styrène. Donc voilà, donc on va faire tout ça. Dans un premier temps, on va mesurer la solubilité des époxydes dans le CO2 en faisant varier la température et en faisant varier la pression. Donc on va enregistrer des courbes qui seront tout cela par intégration de ce que nous donne le spectre infrarouge. On va pouvoir mesurer la concentration en époxy en fonction de la pression, donc de la solubilité de ces époxys dans la phase CO2. Donc on voit que la solubilité des époxys augmente avec la pression. Plus la pression augmente, donc la solubilité des époxys va croître. Et par exemple, pour une pression en CO2 qui est fixée, on remarque que la solubilité va être plus importante à haute température, à 100 degrés, comparativement à 40 degrés, vous voyez à peu près 0,3 mol par litre pour 0,07 pour une même pression. Et bien évidemment, on va pouvoir distinguer, mais je ne vais pas trop m'étendre sur ça, sur un ordre de solubilité en fonction de la nature chimique entre l'oxyde de propylène ou l'oxyde de cyclohexane ou l'oxyde de styrène pour une température. Donc c'est toute une étude qui a été faite sur la solubilité de ces époxydes dans la phase CO2. Et le corollaire, c'est l'étude de la façon comment ces époxydes peuvent être gonflés par le CO2. Donc là, c'est un peu la manip inverse. On inverse notre cellule et on observe ce qui va se passer. Et on va déterminer donc, le taux de gonflement de ces huiles époxydées et de nos époxydes modèles par le CO2. Et en suivant, en mesurant, en intégrant les bandes infrarouges en particulier, on va pouvoir déterminer la concentration en CO2 dans ces époxydes. Donc voilà, donc on mesure des taux de gonflement des phases huile dans le CO2 en fonction de la pression. Donc on constate un peu comme attendu que le gonflement, on va solubiliser de plus en plus de CO2 dans les phases époxydes en augmentant la pression en CO2, comme vous pouvez l'observer. Et par contre, pour une pression de CO2 fixée, le gonflement des huiles est beaucoup plus important à basse température qu'à haute température, ce qui est cohérent avec la nature supercritique de ce gaz. Mais ce qui est important, et c'est ce qu'on voulait vérifier, c'est qu'on peut insérer une grande quantité de CO2 dans la phase époxyde. Alors, ce n'est pas tout à fait fini sur cette étude, je dirais, un peu de thermodynamique de ces mélanges. C'est qu'on a ensuite essayé d'en tirer et de faire les diagrammes de phase. Donc, on fait des diagrammes de phase de ces mélanges époxy-CO2 où on va ici porter, en fonction de la pression, le taux, la fraction de CO2. Donc, vous avez, il faut que j'explique clairement ce dont il s'agit. Donc, on a un système qui est biphasique. Donc ici, vous avez la composition, le pourcentage de CO2 dans la phase qui est riche en huile, et vous avez sur cet axe ici, c'est la phase qui est riche en CO2. Donc forcément, on voit que dans la phase riche en CO2, on a quasiment 100% de CO2 et très peu d'oxyde. Par contre, on voit qu'on peut rentrer beaucoup de CO2 dans la phase huile, dans la phase riche en époxydée, et que donc la phase riche en CO2, il y a une très très faible solubilité. On solubilise très peu d'époxyde dans le CO2. Par contre, dans la phase qui est riche en époxyde, celle-ci où on peut faire varier la température, on a une très grande quantité de CO2 qui peut être insérée dans cette phase. Et on peut voir aussi qu'on peut avoir pour une certaine pression, si je relis ces deux points bleus, donc je passe le sommet de mon diagramme de phase, et au-dessus de cette pression, par exemple, si je l'illustre sur la courbe bleue, au-delà, vers 7 bars, 8 bars, j'ai un système monophasique. Donc ça, c'est avec les époxydes modèles. Donc on voit qu'en jouant sur la pression et la température, on peut être soit dans un milieu biphasique, soit dans un milieu monophasique. Avec les huiles végétales, il n'en est rien. Comme vous pouvez le voir, vous avez une divergence. C'est-à-dire que les courbes ici montent à la verticale et ne vont jamais, quelle que soit la pression à laquelle on va travailler, on aura toujours un système biphasique avec une composition riche en époxyde et puis une phase riche en époxyde dans laquelle on va pouvoir mettre beaucoup de CO2, mais jamais on aura un système homogène. Donc ça, c'est une information qu'on voulait avoir avant de s'attaquer à la réaction de carbonatation. Donc la conclusion de cette première partie, c'est qu'on a fait une détermination in situ de la solubilité donc, et du gonflement de ces diagrammes de phase des systèmes CO2, que l'on a une phase homogène pour des monoépoxydes modèles, des petits monoépoxydes, et puis que dès qu'on va alourdir la molécule en nombre de carbone, on est en conditions qui seront tout le temps biphasiques, mais que pour autant, on peut mettre énormément de CO2 dans ces phases riches huile. La cinétique de carbonatation maintenant. Pareil, on va suivre par infrarouge et Raman. Donc là, on a investigué toute une série de catalyseurs. pour retravailler sur ces différents catalyseurs de type liquide ionique pour étudier cette réaction, par exemple, sur le monomère modèle de l'époxystyrène. Dans des conditions au départ 80 degrés, 8 mégapascal, on est à peu près pour dans des mélanges où on a à peu près moitié CO2, moitié oxyde de styrène, par rapport à ce que je vous ai raconté précédemment sur l'étude de la thermodynamique. Donc, parmi les catalyseurs que l'on a regardés, on ne voulait pas travailler sur de catalyseurs métalliques, pour des raisons que j'ai dites tout à l'heure. Ce n'est pas qu'on est contre les métaux, pas du tout, mais c'était l'idée de regarder, d'investiguer plutôt des catalyseurs organiques. Donc forcément, dans cette réaction époxy CO2, les sels d'ammonium sont déjà très utilisées et très connues, comme le bromure de tétrabutylammonium est un des catalyseurs qui est largement utilisé et qui n'est absolument pas un problème à utiliser. Donc ça, c'était intéressant. C'est un peu notre témoin, si j'ose dire. Mais on avait mis au point, dans le cadre de cette étude, d'autres types de catalyseurs, notamment pour la réaction alcool-isocyanate, sur des sels de guanidinium, qui sont des catalyseurs très intéressants, dans la mesure où ils peuvent aussi, d'une certaine façon, activer les monomères, voire, on va voir, jouer un rôle dans les états intermédiaires réactionnels, par formation de liaisons hydrogène ici, pouvoir avoir un double rôle, une sorte par interaction supramoléculaire. Donc des sels de guanidinium, des sels d'imidazolium, et même des polymères pour faire des catalyseurs supportés, des polymères de polyimidazolium qui ont aussi été testés. Donc on a regardé un peu tout ça. Donc ça fait beaucoup de choses. Je l'ai dit, suivi par infrarouge et Raman pour voir un peu comment se passe cette réaction de carbonatation. Je vais illustrer juste sur un exemple, je ne voudrais pas être trop long sur cet aspect-là. Donc on a regardé l'évolution en fonction du temps de la réaction oxyde de styrène, et après on l'a fait sur tous les oxyranes que l'on a utilisés avec le CO2. Par exemple, avec le bromure de tétrabutylammonium comme catalyseur, donc on peut suivre, en fonction du temps, l'évolution ici des signaux caractéristiques de la formation du carbonate ou la disparition. Donc c'est assez propre, c'est assez facile, et c'est, surtout il n'y a pas besoin de prélever, on peut vraiment faire du suivi in situ juste par enregistrement des courbes que l'on peut mesurer en fonction du temps, donc baisse des signaux caractéristiques de l'époxyde, et on voit pousser la bande carbonate. Forcément, on a comparé tous ces catalyseurs on a pu après faire un petit peu pour en tirer le bilan qui est le suivant. Donc cette réaction, ce modèle avec ces fameux sels que l'on a utilisés, bon, on n'est pas surpris de constater que les sels d'ammonium sont des catalyseurs qui sont très intéressants. Vous avez ici la conversion, alors c'est pas de carbonate, c'est la conversion en carbonate de styrène après 20 heures, qui est autour de 80% dans le meilleur des cas. Et donc ici, le bromure de tétrabutylammonium est le système qui est classiquement utilisé, bon, avec des conversions après 20 heures qui sont tout à fait honorables et correctes. C'est intéressant de constater que pour peu que vous changiez l'anion correspondant, et j'insiste un peu parce que je vais y revenir, par exemple, l'azoture de tétrabutylammonium, ben, ça ne marche pas du tout. Alors qu'avec un halogénure, c'est quelque chose qui va marcher très bien. On va y revenir. Forcément, après, on a voulu regarder les systèmes un peu nouveaux qu'on avait développés sur des sels d'imidazolium, où on voit que là, à nouveau, on a, avec ces dérivés-là, ces catalyseurs, des conversions en carbonate qui sont très, très intéressantes, avec des taux très élevés de conversion. Donc là, on était assez satisfait de ce résultat, pour des raisons qu'on n'a pas encore vraiment expliquées sur des catalyseurs supportés, probablement des problèmes de mélange, de process, et on a des résultats qui sont très très médiocres en termes de conversion, alors que les précurseurs non supportés marchaient très bien. Et puis, si je regarde ces fameux sels de guanidinium, notamment, qui avaient été développés, là, à nouveau, avec le dérivé, l'aduit du TBD, donc ce sel de guanidine protoné par HBR, on a à nouveau des conversions qui sont très, très intéressantes. Alors, revenons un petit peu sur le mécanisme, parce que je vais essayer de le dire de façon très simple, mais un peu résumée quand même, parce qu'il y avait beaucoup d'études derrière tout ça. par la technique infrarouge et Raman, et en particulier infrarouge, on a essayé de suivre la formation de ces adduits et le rôle du catalyseur. Donc ici, j'appuie mon exemple sur l'activation avec l'azoture de tétrabutylammonium. Souvenez-vous, c'est un des catalyseurs qui ne marche pas. C'est-à-dire que la conversion en carbonate est très très mauvaise. Ce qu'on a pu observer avec ce système, c'est que l'on peut voir ici, donc on va regarder juste la partie droite du spectre pour l'instant, où on voit qu'avec ce système, de par la nature de ce contre-anion, on n'est pas perturbé par les bandes d'absorption du CO2, qui sont en général des pics immenses et qui noient l'ensemble du spectre auquel on ne voit rien. Donc là, on a pu tout à fait observer qu'on a une bande ici qui est liée à une vibration asymétrique de la suture. On a un complexe entre l'oxyde de styrène et N3-, donc qui correspond à cet épaulement. Ça a pu être démontré, prouvé. Voilà. Donc on observe que lorsqu'on diminue avec la température et lorsqu'on va ajouter le CO2, cette bande va diminuer. Et cette bande va diminuer lorsque la température va augmenter, lorsqu'on va ajouter le CO2. Donc en fait, on va d'abord regarder les courbes à 30, 40, 60 et 80 degrés sans ajout de CO2. Donc la première manip, c'est l'époxyde et le catalyseur uniquement. Et on voit que sans ajouter de CO2 jusqu'à 80 degrés, c'est la courbe en rouge qui est ici, on a apparition d'un signal dont on a pu démontrer par ailleurs qu'il était le produit d'adduit de l'époxystyrène de l'azoture qui a attaqué l'époxystyrène pour former cet intermédiaire, et que lorsqu'on va rajouter le CO2 dans un deuxième temps, tout en gardant la température à 80 degrés, donc vous voyez, on a rajouté du CO2, on a regardé à T0, après à bout de 600 minutes, au bout de 20 heures, et on voit que finalement, ce signal varie très très peu, en tout cas augmente un peu, mais ce signal ne change pas, et ça veut dire que ce composé qui est ici est excessivement stable, et que finalement, la formation du carbonate ne se fait pas. Donc, pardon d'avoir été un peu long, mais c'était important, alors que forcément, et on a pu s'appuyer sur cet exemple dans la mesure où c'était un des rares cas où on pouvait voir les intermédiaires réactionnels, chose qui nous intéressait. Et donc, je vais revenir un peu sur cet aspect-là quand on va parler mécanisme dans la foulée. Donc, la conclusion de cette partie, c'était de dire que les catalyseurs de type sel de guanidinium ou de liquide ionique sont des catalyseurs qui sont très efficaces, au même titre que le sel d'ammonium classique qui est utilisé. Bon, l'intérêt, c'est que le sel de guanidinium est facile à faire et on peut y travailler à basse pression. Mais l'information qu'on a apprise de cette étude, c'est que la nucléophilie est importante. Il faut que l'anion attaque l'époxyde pour l'ouvrir. Mais il faut aussi que, une fois que cette attaque a été faite, il faut que l'anion soit aussi nucléophuge et puisse être déplacé par le CO2 pour que la cyclisation puisse se faire. Ce qui n'est pas le cas de l'azoture. Voilà, donc on a fait après la même approche sur des parties qui sont sur la carbonatation de ces huiles. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite parce que je pense que je voudrais parler un petit peu de polymères dans la foulée. Donc on a travaillé sur la carbonatation de ces époxydes. On a pu suivre l'effet de la cinétique de ces sels, de ces catalyseurs sur la carbonatation d'époxydes terminaux, toujours par un suivi infrarouge. Alors si je ne vais pas développer trop ça, je vais revenir au mécanisme. Voilà, donc après, une fois qu'on a eu tous ces éléments expérimentaux, on a essayé de les combiner avec de la modélisation moléculaire sur des réactions modèles type oxyde de propylène CO2 avec différents catalyseurs par des méthodes semi-empiriques ou des méthodes DFT. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en parallèle de ça. Et finalement, pour résumer, il y a deux mécanismes qui ont été étudiés et je dirais mis, à savoir la première voie qui consiste dans un premier temps à faire jouer un rôle au CO2 dans l'activation de l'époxyde lorsqu'il est attaqué par le sel d'ammonium pour faire le carbonate. Donc on a modélisé avec un complexe trimoléculaire. Ou alors le chemin 2, qui est de dire, et c'est un peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure, regardez déjà qu'est-ce qu'il se passe lorsque, sans CO2, je mets mon catalyseur, par exemple ce sel d'ammonium, avec l'époxyde. Et là, donc vous avez vu qu'il y avait déjà une croix ici, c'est-à-dire que l'ensemble des études qu'on a pu faire, expérimentales et de modélisation moléculaire, montre que finalement, l'activation de l'époxyde, alors j'ai d'autres documents et je pourrais essayer de répondre aux questions après s'il y en avait, mais je ne voulais pas non plus alourdir mon propos sur cet aspect-là, mais s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. L'activation de l'époxyde est effectuée par le catalyseur avant l'ajout du CO2. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant dont on est absolument sûr. Donc, ça a été modélisé par, donc dans le cas du sel de guanidinium TBDHBR avec l'oxyde de propylène. Donc voilà, et le rôle de ce sel de guanidinium est très important. Il y a une activation de l'époxyde via des liaisons hydrogènes, attaque de l'anion sur le cycle, ouverture de l'époxyde, à nouveau une stabilisation de l'espèce ouverte active par le sel de guanidinium, insertion du CO2 donc dans la structure, et bien sûr après, il faut que cet anion soit un bon nucléofuge pour être expulsé, former le cycle, et à nouveau, vous avez ce cycle vertueux. Donc ça, c'est un mécanisme qui est pour nous maintenant absolument acquis et qui correspond. Donc, mais ce qui est important, le message important, c'était aussi le rôle du catalyseur et le rôle essentiel dans la stabilisation des intermédiaires, comme vous le voyez ici, et ce qui montre en fait pourquoi, avec les sels de guanidinium, par exemple, qui peuvent fonctionner par activation hydrogène, on a des plus grandes activités qu'avec un sel d'ammonium classique. Donc ça, c'est des choses que l'on a continué à regarder, à étudier. Je ne sais pas quand j'ai commencé, mais je vais continuer un petit peu sur la partie polymère pour vous montrer un petit peu sur ces polyuréthanes. Donc finalement, on a ces carbonates, revenons aux polymères. Donc une fois qu'on a ces carbonates, juste très rapidement, on ne veut pas commenter tout ce spectre, j'ai enlevé toutes les animations pour gagner du temps volontairement. C'était juste pour vous dire que voilà, à partir de ce dérivé d'acide gras, on va synthétiser toute une palette de carbonates, puisqu'on a à peu près maîtrisé le mécanisme et compris la solubilité de ces époxydes dans le CO2. Et regardez finalement, donc voilà, vous en avez une illustration ici. Donc dans un premier temps, on part ici de l'acide en C11, donc c'est pour ça dérivé du ricin. Et puis on peut faire des dimères. J'ai expliqué pourquoi on voulait absolument faire des dimères pour faire ces bisépoxydes et ces biscarbonates. Donc la chimie est relativement propre, on n'a pas d'ambiguïté sur la structure moléculaire de ces molécules. Donc on a designé toute une série de biscarbonates en faisant varier, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la nature des liens entre les fonctions réactives, ici des chaînes en C3, en C4, des cycles par exemple, ou en C10 pour jouer, moduler les propriétés de ces structures et donc de ces polymères. Et notamment, comme vous allez le voir, c'est important, le fait soit de pouvoir avoir de générer des liaisons hydrogènes ici par des segments amides entre les fonctions carbonates, ou alors de totalement substituer, de priver le matériau de pouvoir former des liaisons hydrogènes en venant substituer les atomes d'azote ici. Donc bon, forcément, après cette réaction de polymérisation, on l'a fait en masse, et l'objectif était de la faire sans catalyseur, parce qu'un des enjeux de la réaction carbonate-amine, alors que isocyanate, alcool, il faut quand même catalyser avec des catalyseurs toxiques, notamment à l'étain. Donc l'idée, c'est de faire des réactions carbonate, biscarbonate, avec tout ce que vous voulez ici entre les fonctions carbonates, avec toute une série d'amines. Alors la problématique des amines est aussi un souci parce qu'il n'y a pas tant d'amines biosourcées à notre disposition. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup au laboratoire sur la recherche et la synthèse d'amines biosourcées par des procédés propres. Parce qu'on a peut-être réglé le problème des isocyanates, mais se pose quand même la question des amines à notre disposition. Donc ici, vous avez ici une amine en C36, qui est une amine dérivée de l'acide gras, qui est produite par la société Croda, et puis après des amines qui sont des isophorones diamines, comme on a les isophorones d'isocyanates, bref, toute une série de diamines, pour faire une panoplie de polyhydroxyuréthane, donc que l'on peut caractériser en termes de masse molaire. Tout ça est assez classique dans notre domaine pour caractériser, donc forcément on s'intéresse à voir les chaînes polymères les plus élevées possibles. Si on veut des propriétés vraiment de matériaux, c'est quand même intéressant de pouvoir solubiliser ces polyuréthanes dans des solvants adéquats. Alors c'est pas toujours facile, ici ça va, c'est dans CDCl3, mais la plupart du temps ils sont pas solubles, donc on est obligé d'aller travailler dans des solvants type DMF, DMSO pour solubiliser et avoir une connaissance précise de la structure moléculaire de ces polymères. Donc on va retrouver des signaux dans ces polyhydroxyuréthanes caractéristiques de la présence et attendue alors infrarouge, je n'en parle pas, mais RMN en particulier, de la présence de fonctions alcool secondaires et de fonctions alcool primaires dans un ratio d'ailleurs à peu près équivalent. Ça veut dire que lorsque le carbonate réagit avec l'amine, c'est assez statistique, on n'a pas observé qu'on allait essentiellement former un alcool secondaire ou un alcool primaire à chaque fois que l'amine réagissait sur le carbonate. Ce qui me paraît plus peut-être important, intéressant de vous montrer, c'est finalement l'impact de la structure moléculaire de ces biscarbonates sur les propriétés thermomécaniques des polyhydroxyuréthanes que l'on va fabriquer. Donc, lorsque l'on va avoir des biscarbonates qui sont avec des segments amides qui pourront générer des liaisons hydrogènes de façon intra- et intermoléculaire, on va donc fabriquer, mettre au point des polyuréthanes qui seront semi-cristallins. Donc ça, c'était important pour nous de pouvoir montrer que par cette voie-là, sur une base de substrat acide gras, on pouvait fabriquer des polyuréthanes qui soient soit complètement amorphes avec une température de transition vitreuse qui peut être de moins 30 à 50, 60 degrés, et aussi des polymères semi-cristallins entre 100 et comme c'est le cas ici. Donc forcément, et comme attendu, dès que vous pouvez générer des liaisons hydrogènes, ben vous générez de la cohésion entre les chaînes, et de fait, les chaînes polymères vont cristalliser, comme nous le montre d'ailleurs l'analyse les thermogrammes, l'analyse enthalpique différentielle de ces matériaux. Vous observez ici des pics de fusion. Alors, ce n'est pas de la fusion de petites molécules, c'est caractéristique des polymères avec des fusions assez larges, parce qu'on a des tailles de cristaux différentes, et tout ça mériterait d'être recuit, optimisé, bien évidemment. Mais on observe donc des fusions de ces matériaux à des températures variables en fonction, bien évidemment, de la nature chimique de l'amine que l'on a mise en vis-à-vis de nos biscarbonates. Et bien évidemment, lorsque je prive la possibilité de générer des liaisons hydrogènes en substituant l'atome d'azote, on va récupérer des matériaux totalement amorphes dont la température de transition vitreuse ici va dépendre forcément de la nature de l'espaceur. Alors, on n'est quand même pas complètement satisfait parce que cette réaction n'est pas complète. C'est-à-dire que ces carbonates, et c'est pour ça que ce n'est pas totalement la panacée, la réaction carbonate-amine, même si je la catalyse, et même en travaillant à des températures qui sont relativement hautes, ce n'est pas satisfaisant. Parce que pour faire des PU, si je veux faire un vernis sur ce plancher, je vais le faire chez moi, je ne vais pas travailler à 70 ou 140 degrés. Donc, l'intérêt de pouvoir travailler à des températures beaucoup plus basses est vraiment un enjeu. Donc on n'a fait que résoudre partiellement le problème. OK, on n'a pas d'isocyanate, mais pour autant, la réactivité de ces carbonates reste un problème. La conversion en polyhydroxyuréthane n'est pas totale. C'est lent, donc ce n'est pas totalement satisfaisant. Alors, il y a une explication assez rationnelle, assez évidente à pouvoir dire dans un premier temps, c'est que les carbonates base lipidique que l'on a fabriqués, comme vous voyez ici, il y a 8 atomes de carbone qui vont faire que globalement on a des effets plutôt plusis et inducteurs sur ces carbonates, donc ils freinent complètement la réactivité du carbonate. Comparativement à d'autres types de carbonates, vous voyez, avec des fonctions éthères ou des fonctions esters en position bêta du cycle, qui vont plutôt avoir un effet activant, un effet moins I, et qui explique pourquoi ces types de carbonates sont souvent plus réactifs que les carbonates que l'on a mis au point. Alors, on a donc, bon, ça c'est un petit peu la conclusion. Donc, je vais essayer de vous dire maintenant comment on essaye de contrecarrer cette problématique. On a quand même vérifié au passage que si on faisait réagir différents types de carbonates possédant des substituants de nature chimique, des alcools, des dérivés, des vinyles, des méthyles ou des chaînes plus importantes, qu'ils soient à 5 comparativement à des cycles à 6, mais comme attendu, ce n'est pas une surprise, les carbonates, ce n'est pas une surprise, alors que thermodynamiquement, on pourrait penser que des cycles à 6 sont plus stables que des cycles à 5, mais dans le cas des carbonates, ce n'est pas vrai. Les carbonates à 6 sont beaucoup plus réactifs que les carbonates à 5, et donc forcément, ce premier point qu'on voulait valider et qui était un peu connu déjà dans la littérature, nous fait dire que c'est intéressant d'aller vers la synthèse de carbonate à 6. Alors, en 5 minutes, si c'est possible, voyons voir ce que l'on peut faire. L'enjeu, quel est-il ? Il est d'aller travailler sur des carbonates à 6 base lipidique, si possible avec des amines vertes, pour faire ces fameux polyuréthanes totalement biosourcés et avec la meilleure chimie possible. Donc on est parti de travaux qui sont connus sur la synthèse de dérivés qui sont ici des diesters, qui sont des structures de type malonate, base acide gras, que l'on peut faire très facilement à partir de dérivés d'acide gras, que ce soit sur des acides en C11 ou en C18. Donc on va fabriquer ces... Donc c'était des travaux qui étaient décrits dans la littérature pour faire des polyesters ou des polyamides. Donc en fait, l'idée qu'on a eue était de partir vers la réduction de ces malonates pour faire des diols, là cette fois-ci des diols en structure 1,3, et à partir de diols en structure 1,3, aller vers la synthèse de carbonates base lipidique à 6 chaînons. Alors pour faire ces diols, pour faire ces carbonates lipidiques, je dirais, à 6 chaînons, il y a des intermédiaires. Et on peut, là, on ne l'a pas à regarder, mais je le dis parce que c'est sûrement peut-être la question, enfin l'idée viendrait, peut-être que certains d'entre vous auraient eu cette idée ou cette question, c'est que forcément pour accéder à ces carbonates, on va utiliser des intermédiaires de type phosgène ou des. Et là, cette chimie-là, passer de diol 1,3 en carbonate à 6, par l'utilisation du CO2 avec la bonne catalyse, peut être très intéressant à regarder, chose que nous n'avons pas faite à ce jour. Donc on est parti dans une chimie de carbonate, on est parti de dérivés d'acide gras, d'ester méthylique d'acide gras, synthétiser le dérivé de type malonate. Les chimies, la RMN est excessivement propre et montre à tout ça est fait avec des bons rendements, pour finalement faire les diols à 1,3 et finalement une étape de cyclisation par des réactions de type éthylchloroformate pour faire ces carbonates à 6. Vous pourrez constater qu'on a travaillé sur des monocarbonates dans un premier temps, après avoir essayé d'autres chimies, et ce n'est que dans un second temps qu'on a fait nos dimères de carbonates, puisqu'il y a une fonction carbonate en position oméga et une insaturation en position alpha, et après, selon deux modes de couplage classiques, enfin, qu'on utilise classiquement, par des réactions de métathèse, on peut faire des dérivés de type biscarbonate, par réaction de métathèse, ça marche très bien, enfin, avec des rendements normaux, métathèse, on est en réaction équilibrée à 50% de rendement, et puis ou d'addition de type thiolène sur la double liaison pour amener ici, par deux liaisons soufre, ces biscarbonates que l'on a bien caractérisés et pour avoir nos structures. On avait essayé de faire les biscarbonates directement, sur le bismalonate, mais ça ne marche pas et c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Bon, on n'est pas surpris si je regarde la cinétique de la réaction entre ces carbonates avec une amine modèle, justement pour regarder la réactivité. Vous avez de façon toujours très supérieure le carbonate, le triméthylène carbonate qui réagit forcément le plus vite vis-à-vis de l'exylamine, par exemple, en fonction du temps. Mais on voit que les carbonates à 6 chaînons base lipidique que l'on a mis au point ont une très très bonne réactivité vis-à-vis des amines, donc c'est encourageant pour la synthèse des polyuréthanes, et en tout cas une réactivité qui est 30 fois supérieure à ce que l'on avait tout à l'heure avec des carbonates à 5 chaînons. Donc allons-y, faisons ces polyuréthanes. Donc on les a fait, ça marche très bien, on fait ça en masse, sans catalyseur, c'est très très réactif, les produits sont stables, mais dès qu'on les met en contact, en chauffant un peu, on peut faire ces polyuréthanes. Mais les choses ne sont jamais toujours comme on les attend ou parfaites, ça c'est la science. Et finalement, donc, ce que représente ici, c'est mon schéma très simple, c'est ce polyhydroxyuréthane, puisqu'à chaque fois, il y a une fonction alcool qui est générée. Donc voilà, c'est tout à fait... Donc il y a cette fonction. Et ce que l'on a pu observer, c'est que finalement, on n'observait pas un polymère qui était linéaire, qui était un polymère un thermoplastique, mais on observait systématiquement, on faisait des gels. Alors, ça peut être très intéressant de faire des gels de polyuréthane par cette voie-là. Donc, on l'a expliqué par le fait qu'à chaque fois qu'un carbonate réagit avec une amine, on génère un hydroxyle dans la structure, que cet hydroxyle peut venir en compétition avec l'amine, c'est assez intuitif, pour venir lui aussi réagir avec le carbonate et faire une réaction secondaire. Donc, c'est l'hypothèse la plus plausible qui fait que finalement, si vous avez ici une chaîne 1 et une chaîne 2, eh bien, un hydroxyle d'une chaîne peut venir réagir sur un carbonate d'une autre structure et puis venir faire des ponts, des liens entre les chaînes pour faire ce réseau. On a quand même coutume, avant d'analyser un polymère et de mesurer les masses molaires, de faire une réaction de quenching. Pourquoi ? Parce que quand vous faites réagir un diol avec un disocyanate pour faire un PU, vous avez toujours des fonctions isocyanates résiduelles. Donc en général, on rajoute du méthanol pour faire réagir les dernières unités isocyanates pour éviter d'avoir ces traces de fonction. Et là, on a fait la même chose, mais comme là, la réaction, c'est carbonatamine, en fin de réaction, on avait, je dirais, un peu spontanément, naturellement, rajouté une amine dans le milieu. Et lorsque vous rajoutez ce qu'on va appeler un chain stopper, un agent de terminaison des chaînes type amine, à notre grande surprise, on a pu observer que nos systèmes devenaient complètement solubles et qu'on cassait la structure gel pour repasser à des systèmes totalement solubles qu'on pouvait analyser par GPC. Donc ça, c'est très, très intéressant. Parce que ça veut dire que selon la façon dont on va traiter le matériau en fin de polymérisation, on peut aller vers des applications de type gel ou des matériaux qui vont être solubilisables dans différents milieux. Donc, l'explication que l'on a pu donner, elle est la suivante, c'est qu'au départ, donc, on fabrique avec ces polyhydroxyuréthanes par la voie carbonatamine, avec les carbonates à 6 chaînons, un système qui est insoluble. Quand je rajoute une amine pour ce fameux quenching de réaction, l'amine, enfin, c'est supposé, c'est pas complètement prouvé, mais c'est ce qui nous paraît être le plus... vient réagir sur la fonction carbamate pour générer une fonction urée. Et en générant une fonction urée, eh bien, je clive les chaînes à ce niveau-là. Et de fait, donc on les voit, les fonctions urées, par infrarouge, par RMN, etc., mais je vous passe tous ces détails, et même par Malditov, que l'on a pu, par analyse de spectrométrie de masse, pardon, Malditov, et on a pu observer qu'on pouvait, comme ça, passer de systèmes insolubles à des systèmes solubles, et on est en train aujourd'hui d'étudier, d'investiguer, de creuser un petit peu le potentiel de ces systèmes en jouant sur ce caractère réversible de ses propriétés de solubilité. Voilà, j'en ai terminé. Bon, ça, c'est l'ensemble des publications que l'on a pu faire au travers de ce travail de 3 années de partenariat avec les collègues de l'ISM et de l'ITERG. Donc, je répondrai après à vos questions si vous en avez, bien sûr. Je voudrais quand même remercier les partenaires de ce travail. Et le travail que je vous ai présenté, en fait, la partie spectrométrie, spectroscopie, propriétés thermodynamiques des mélanges, c'est le travail de thèse de Stéphanie Foltran. Et toute la partie polyuréthane que je vous ai montrée sur la fin, c'est le travail de thèse de Lise Maisonneuve, donc qui vient de soutenir sa thèse là, il y a quelques semaines. L'ANR qui nous a financés, les collègues de l'ITER qui nous ont aussi accompagnés dans ce projet. Et je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Et j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, merci beaucoup de votre attention.